Vous écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour pour la deuxième heure de cette édition de Prolongation. Le samedi 10 octobre, les agents et les directeurs généraux ne chôment pas, mon cher Danny. André Burakovsky, Colorado, c'est signé. Colorado a beaucoup de marge de manœuvre. Là, ils viennent de signer un morceau important. Un joueur agent libre avec restriction. Un contrat qui va lui rapporter annuellement 4,9 millions pour 2 ans. Alors, c'est un contrat passerelle dans son cas. Les Québécois Gaudreau et Lagacé s'en vont à Pittsburgh. Tomáš Greiss s'en va garder les buts à Détroit avec notre ami Jonathan Bernier. 2 ans avec un contrat total de 7,2 millions. Craig Smith à Boston. Greenway au Wild du Minnesota, il était là. C'est un agent libre avec restriction. Tyson Barrie, 1 an pour Edmonton avec 3,7 millions de salaire. Nate Thompson à Winnipeg. Mike Smith gardera les buts. L'increvable Mike Smith revient avec les Oilers d'Edmonton, même si à la fin de ces séries estivales, on avait envie d'aller le reconduire à la maison. 2 millions pour son salaire annuel. Kevin LeBanc, prolongation de 4 ans avec San Jose à 4,7 millions. Le Québécois Louis Domingue sera, si on n'échange pas Rittich d'ici là, là, il sera le troisième gardien de l'organisation des Flames de Calgary à signer pour 1 an 700 000. Jasper Fast vient de prolonger son contrat avec la Caroline, 3 ans de plus, et Cody Aiken a signé un contrat de 2 ans à raison de 2,25 millions par année. Chez le Canadien, Danny, Victor Mété a signé une entente d'un an, 735 000 $. Danny, il va falloir que Victor Mété fasse des étincelles lors de la prochaine saison quand la rondelle va tomber au camp d'entraînement. Son poste est en danger avec le Canadien et peut-être même sa place régulière dans la Ligue nationale.
Moi, je t'ai parlé des tendances dans la Ligue nationale en faisant référence, bien sûr, au gabarit des défenseurs.
Tendance que le Canadien a suivi.
Et tendance que le Canadien a suivi, tu fais bien de le mentionner, avec l'acquisition d'Edmundson qui est venu un autre gros gabarit. Les équipes qui gagnent la Coupe Stanley ont des brigades défensives qui, en moyenne, ça tourne autour de 6 pieds 2 et c'est plus de 200 livres. On parle de moyenne. Dans les 2 dernières éditions, il n'y a personne qui était en bas de 6 pieds. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est qu'on veut des patineurs qui sont fluides, mais des joueurs qui sont résistants, qui sont capables de prendre la pression et de gagner des bagarres à 1 contre 1, ce qui n'est pas la tasse de thé, évidemment, de Victor Mété, on le sait. Maintenant, ceci étant, ça demeure un joueur qui a quelque chose à offrir, mais des joueurs rapides qui produisent pas offensivement, ça va être difficile pour lui parce que là, il va être en compétition avec Xavier Ouellet pour le poste de numéro 7, je pense, parce que dans ma tête, Kulak et le jeune Romanov demeureront à Montréal dans des rôles très précis, des rôles de soutien. Et rapidement, je pense que Romanov, si ça se confirme,
pourrait gagner du galon, là.
Il devrait se retrouver avec un joueur comme Petrie. Parce que Romanov, là, c'est pas une bombe offensive, là. Romanov, c'est un très bon joueur, bonne première passe, un gars qui va jouer un petit peu dans les deux sens. C'est pas comme McDonough, mais c'est un joueur qui va faire un peu ça.
Il est proactif sur la glace. Il défend de façon dynamique. Proactive.
Oui, tout à fait. Il est très dynamique, il est intelligent, tout ça. Il y a beaucoup de qualités qui militent en sa faveur, qui vont faire que probablement, à un moment donné, on va trouver que Edmundson, ça reste un joueur de soutien. Peut-être que sur une troisième paire à ce moment-là, il sera plus à sa place, un peu plus à sa place. On verra, le temps va nous le dire. Mais je pense que l'arrivée d'Edmundson, c'est un peu pour acheter du temps dans le développement de Romanov et s'assurer de le protéger. Voilà.
Et il va peut-être avoir une bagarre entre Mété, Fleury pour un poste à gauche, Jolson. Jolson a besoin
Fleury
de jouer.
Fleury droitier, Martin, là, lui.
C'est vrai, merci de me rappeler.
Fleury,
alors.
Jolson droitier. C'est à droite que ça se passe. Là.
Voilà.
La bagarre,
alors,
je pense.
Alors, Jolson, lui, évidemment, il a besoin de millage, Danny, mais je pense qu'on n'a pas lancé la serviette avec lui dans l'organisation du Canadien, puis on fait bien de ne pas avoir lancé la serviette. Xavier Ouellet a rencontré virtuellement les médias aujourd'hui. C'est formidable, Danny, parce que ça a bien marché aujourd'hui. Le son était parfait. On pouvait entendre parfaitement ce que disaient Xavier Ouellet et Victor Mété. Il a signé un contrat de 2 ans, un contrat à double sens qui va lui rapporter 737 000 $ dans la Ligue américaine et 405 000 $ dans 405 000 $ dans la Ligue américaine et 700 000 dans la Ligue nationale, 737 000. Il va nous expliquer quelle a été la décision qu'il a prise et il l'a pris en équipe la décision. Écoutons-le.
Premièrement, on est content de rester dans l'organisation des Canadiens, de pouvoir rester à Montréal. C'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur pour nous, donc Ça, c'est la première chose. Puis, côté hockey, j'aime vraiment la direction que l'équipe prend en ce moment avec la mentalité de gagner puis tout. Donc, je pense que ces deux raisons-là ont fait en sorte que je voulais rester à la maison puis de continuer de jouer pour cette organisation-là. Et ma mentalité, elle change pas. Je veux être dans le national, je veux être à Montréal, je veux aider l'organisation, l'équipe des Canadiens à gagner des matchs puis à avoir du succès. Donc, je pense que la compétition est saine. Je pense que c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour amener le meilleur de chacun. Donc, moi, ma job, c'est d'arriver prêt puis de faire ce que j'ai à faire. Puis après, on va voir ce qui va arriver. J'ai un groupe d'agents que je fais confiance, qui ont beaucoup d'expérience dans les négociations comme ça. Puis, je pense que c'est plus que juste l'organisation des Canadiens. C'est un genre de market dans la ligue au complet, de voir, tu sais, c'est quoi ta valeur, à quoi tu peux te comparer dans la ligue. Puis, j'ai compris que ça aurait été quelque chose de vraiment dur à aller chercher. Donc, de mon côté, c'était d'aller chercher le mieux possible pour ma famille, quelque chose dans lequel je me sens confortable et bien. Puis, je pense qu'avec cette entente-là, les deux côtés sont contents.
Danny, Xavier Ouellet, c'est un joueur courageux. On l'a vu en série. Il n'a pas peur de personne. Il fait les sacrifices nécessaires pour l'équipe. Il n'envoie pas de rondelles d'un patin de ses coéquipiers pour pas se faire frapper. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un gars qui exerce un très bon leadership s'il joue dans la Ligue américaine. Ça prend des gars comme ça, Danny, pour former de la relève. Comme on dit, c'est un bon coup d'avoir gardé Xavier Ouellet. Puis lui, il disait, j'ai pris un contrat à deux sens parce que le marché, il est pas facile, Danny. On le voit là, depuis 48 heures à peine.
Non, le marché est pas facile. Puis les joueurs qui veulent avoir des longs contrats, les équipes sont pas prêtes à leur donner actuellement. Puis là, on sait pas non plus le nombre de matchs qui va être joués.
Beaucoup d'incertitudes encore là, devant
c'est
nous.
Ça. C'est ça. On sait pas le nombre de matchs qui vont être joués l'an prochain. Tout ça, ça met en péril la somme qui est garantie parce que puis là parler de la tout ce qui va venir avec la provision, le fameux escrow là.
Et ça Danny, on va expliquer ça dans les prochaines émissions parce que ça va être un enjeu important. Oui. Si on planifie de revenir au 1er janvier, là, ça va être un enjeu important, puis on va tenter de l'expliquer aux gens un petit peu comment
ça va
tout changer ça fonctionne.
Ça change les pourcentages. Ça veut dire que rapidement, là, un joueur qui tu signes, on va dire 1 million, ça fait que c'est 800 000 qui te reste là, en partant parce que tu as une provision de 20%. Ça, c'est la convention collective qui a négocié ça. Maintenant, si tu joues pas le nombre de matchs total, évidemment, au prorata, tu vas être payé au nombre de matchs parce que.
Alors,
C'est 50% des revenus, là.
Alors, au 1er janvier, ce ne sera pas une saison de 82 matchs, mais les prochaines semaines nous donneront probablement des éclaircissements là-dessus.
Oui.
Taylor Hall, c'est sorti de la bouche de Marc Bergevin. Le dossier est encore actif. Bergevin dit, tant et aussi longtemps que Taylor Hall n'a pas signé avec une autre équipe, le dossier est actif pour nous. Est-ce qu'il est vraiment actif, Danny? Et est-ce que, ultimement, le Canadien serait prêt à faire les choix déchirants qui entraînerait la mise sous contrat de Taylor Hall?
Écoute, j'ai pas d'informations privilégiées. Je fais comme tout le monde, je fais des scénarios pour l'instant.
Oui.
Je pense qu'il y a de l'intérêt pour Tomáš Tatar sur le marché actuellement pour une transaction.
Assurément.
Si cette transaction est pas trop gourmande, alors si on prend des choix de repêchage par exemple pour s'assurer
de
libérer
un jeune prospect là, qui joue pas dans la Ligue nationale.
Oui, c'est ça. Pour s'assurer de libérer le 4.8 là, qui est sa dernière année de contrat.
Oui.
Il reste 3.8 actuellement aux Canadiens. 3.8 plus le mettons 3 millions, on est à 7 millions. Je pense que Taylor Hall a été assez catégorique sur le fait qu'il accepterait une entente à moins long terme.
C'est ça, 2-3 ans.
Parce que de toute façon, les conditions sont pas favorables pour lui.
Absolument.
S'il signait à long terme, il va perdre de l'argent, il le sait. Donc pour lui, c'est un bon joueur, il a confiance en lui. Des fois, il a peut-être trop confiance en lui, mais là,
ouais,
dans
c'est ce que j'allais dire.
Là, dans ce cas-ci, je pense qu'il est animé par les bons réflexes. Il a la bonne attitude.
Puis il est prêt à jouer dans un marché canadien, et ça, il l'a dit. Il était à Edmonton avant, il veut retourner, il aimerait retourner dans un marché, mais Danny, il cherche un fit en bon québécois, c'est ce qu'on entend. Et un des fits qu'il recherche, est-ce que c'est vraiment à Montréal ou si, par exemple, il pourrait le retrouver au Colorado? Parce que le Colorado aurait amplement les moyens, non seulement de le signer à court terme, mais peut-être même de le régler à long terme.
Oui,
à titre d'exemple.
C'est sûr, Martin, qu'il y a toujours la fameuse menace qu'on se serve de l'argent qu'on offre à Montréal parce que c'est un marché qui est très agressif pour avoir un joueur de cette envergure-là.
T'es arrivé plusieurs fois, mettons, là.
Oui, puis après ça, aller voir ailleurs. Moi, je veux juste dire, là je vais les descendre en rafale, mais voici le nom des équipes qui a au minimum 10 millions actuellement d'espace pour travailler. Dallas, Floride, Nashville, Los Angeles, Columbus, Boston, Rangers, New York, New Jersey Devils, Colorado, Détroit, Buffalo, Ottawa. Donc, là-dedans, là, il y a des destinations. Là. C'est sûr que...
Détroit, Buffalo, Ottawa, je ne suis pas sûr là, pour Taylor Hall. Là, mais...
Non, mais mettons que les Kings de Los Angeles, s'ils décidaient, eux, là, bon, c'est pas fin de nous, ils ont de l'argent pour se
payer. C'est séduisant.
Évidemment, là, il y a des équipes qui ont de la place, mais des équipes qui ont des enjeux, comme le Canadien, des beaucoup de contrats qui arrivent à échéance.
Entre autres, Columbus, ils ont de la place, mais Columbus, ils doivent signer quelques agents libres avec restrictions aussi. Là.
Ben, Pierre-Luc Dubois.
Dubois est le premier en ligne. Là.
Oui. Donc, des fois, c'est trompeur, les chiffres. Mais tout ça, ça nous dit que actuellement, il y a 5 équipes dans la division du Canadien, on parle pas de l'association, là. Mm-hmm. Il y en a 5 dans la division du Canadien qui ont plus de 10 millions de marge de manœuvre. Et c'est énorme, là. Et évidemment, ça place le Canadien dans une situation où ils peuvent pas se permettre là, de laisser passer l'opportunité, tout au moins de discuter avec Taylor Hall. Puis s'il va ailleurs, puis on a fait monter les enchères, il vient pas chez nous, correct. Vous allez le payer gros prix. Ben oui, exactement.
Absolument. Danny, il y a un autre joueur qui serait dans la mire du Canadien. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça ne l'est pas? Quand ils se sont fait dire non à l'ouverture du marché par Wayne Simmonds, qui a choisi Toronto pour un peu moins d'argent parce que c'est un gars qui vient de la région de Toronto, alors il souhaite peut-être finir sa carrière dans sa cour, chez lui, et ça, on respecte ça. On cherchait un profil X, c'est-à-dire un ailier qui peut jouer du hockey robuste, qui peut jouer une bonne présence autour du filet et qui a de l'expérience. Et tout à coup est sorti le nom de Corey Perry. Corey Perry a ébahi tout le monde pendant les séries parce que on se demandait encore s'il restait du hockey en lui, surtout dans les derniers moments à Anaheim. C'était tellement lourd pour lui. C'était lourd dans ses patins, puis ça devait être lourd dans sa tête aussi. Mais là, à Dallas, ça a été complètement différent. Ça a été un beau pari. Et semble-t-il que le Canadien a regardé vers lui. Est-ce que ça continue le magasinage avec Perry? Je ne sais trop. Mais Simmonds, Perry, on sait à peu près ce que Marc Bergevin cherche pour remplacer des gars comme Dale Weiss et comme Jordan Will. On sait le profil qu'ils cherchent.
Ben là, c'est ça. C'est sûr que il reste un an de contrat à Will. Mais après ça, t'as un tas de joueurs là qui sont des joueurs actuellement. On est dans un virage chez le Canadien. Là, on semble avoir. Puis ça arrive. Là, à un moment donné, c'était la vitesse. Avant ça, c'était l'attitude. Là, c'est le poids. Tu sais, je veux dire, ça change souvent. Là, tu sais, puis je fais pas d'ironie. Là, c'est on copie ce qui gagne. Puis là, on dit nous autres, il faut aller vers ça. Avec moi, tu sais, Perry là, je pense que il a pas mal donné ce qu'il avait à donner et je garde en tête le fait que lui est arrivé frais et dispo dans la bulle et que je suis pas sûr qu'avec les 82 matchs d'un patin, je suis pas sûr qu'il va aller à la même vitesse en série parce que c'est un joueur plus âgé.
Ouais, mais tu sais, Danny, peut-être que tu vas en jouer juste 65 à partir du 1er janvier.
Un an, là, je te rejoins.
Fait que là, c'est intéressant à ce moment-là.
Ça pourrait tenir la route.
On voit le profil, en tout cas, Danny. On voit le profil.
Et je vais te lancer un nom là pour le quatrième trio. Là. Il y a des gars qui ont rien signé encore. Là. Ils sont encore sur le marché, comme Matt Martin, là, qui est pas.
J'y arrivais à lui.
Tu regardes, tout le monde cherche à avoir à cause de Maroon les résultats que le Lightning a eu en série avec son acquisition, tout ce qui
prennent la valeur ces gros gars là.
Ben là, tout à coup, des gros gars comme ça, tout le monde dit j'en ai besoin d'un là.
Ben oui.
Tu sais, je pense qu'Anderson est le modèle pour le Canadien pour être sur l'avantage numérique, aller devant le filet, là, parce que ça prend quand même des habiletés. Mais sur ton quatrième trio, il faut quand même que tu sois capable de déranger un peu l'adversaire, amener rapidement la rondelle, amener du rythme, de l'énergie, de l'enthousiasme. Moi, je pense que Matt Martin connaît très bien son rôle, c'est ce qu'il fait. Je suis pas un fan, là, mais je me dis, dans la composante, si vraiment tu cherches un élément, parce que je regarde ce que les autres ont là ailleurs, peut-être ça va t'en prendre un joueur de cette nature.
Ben, je comprends, parce que dans ta division, là, il commence à avoir du papier sablé pas mal. Oui. Alors, ça va être à suivre, ce dossier-là. Danny, dans les bons coups d'hier, là, les Blues de Saint-Louis ont très bien travaillé.
Oui.
Tu t'en vas dans un cul-de-sac, dans les négociations avec ton capitaine Pietrangelo. D'ailleurs, Pietrangelo a pris l'avion, puis il est allé visiter Vegas aujourd'hui.
Parier?
Exact. Ben, je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il était plus occupé que ça. Je pense qu'il est allé voir. Il est allé voir où est-ce qu'il pourrait s'installer, les facilités d'entraînement. Il est allé rencontrer l'équipe là-bas. J'y reviendrai évidemment sur ce dossier-là. Mais les Blues ont bien travaillé parce que ils perdent leur capitaine, puis là ils se retournent vers Torrey Krug. Il y a pas beaucoup de monde qui anticipait que Krug pourrait aboutir à Saint-Louis, mais pour 6,5 millions et pour une durée de 7 ans. C'est pas un méchant contrat. Krug a 29 ans, mais c'est un gars qui peut apporter quelque chose à l'équipe. Et les Blues ont des défenseurs pour entourer Torrey Krug, Danny.
Oui, puis écoute, lui, là, il a quand même du leadership, ce gars-là. C'est un gars qui a du caractère. Il va inspirer ses coéquipiers. C'est pas un joueur offensif qui va être à la remorque des autres et qui s'engagera pas. Là. C'est un vrai gars d'équipe. Là. Alors, moi, écoute, ce gars-là, il n'y a pas beaucoup de petits joueurs dans la Ligue nationale à cette position-là qui sont capables d'amener, de dynamiser leur jeu de la façon dont il le fait. Lui, j'aime beaucoup comment il se comporte.
Puis en plus, je trouve qu'à Saint-Louis, il y a un encadrement qui ressemble à celui qu'il y a eu à Boston. Tu sais, Parayko, des gars costauds autour de lui. En tout cas, ça va être intéressant de voir comment ça va tourner. Je parlais de Markstrom tantôt parce qu'on va parler des gardiens de but tantôt. Je les ai regroupés vraiment, les gardiens de but ensemble, parce que en soi, les gardiens cette année, c'est un dossier. Mais Brody à la défense à Toronto, les Maple Leafs veulent absolument colmater les brèches devant le gardien de but Anderson. C'est la seule façon que cette équipe-là va réussir à se rendre à la terre promise. Est-ce que Brody est le candidat? Moi, je le déteste pas, TJ Brody. En tout cas, défensivement, c'est mieux que Tyson Barry.
Oui, c'est sûr. Écoute, mais ça reste des joueurs qui... Il y a comme une espèce de mi-figue, mi-raisin entre l'équilibre de la défense et de l'attaque. C'est toujours un peu ce qui revient avec ce genre de joueur-là. Mais Brody, je te rejoins. Il y a quand même un petit quelque chose de plus à offrir. Puis moi, je pense que dans les joueurs qui étaient disponibles, c'était un des joueurs quand même assez attrayant.
Ensuite, là, on voit à quel point ça a de la valeur, les défenseurs, Danny. Shattenkirk, que personne voulait jusqu'à ce qu'il gagne la Coupe avec Tampa, se retrouve avec Anaheim. C'est pas une équipe gagnante, mais quand même, il va chercher 11,7 millions pour 3 ans. Schultz, soit que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas pantoute, là, mais il s'en va à Washington quand même avec une bonne équipe pour un contrat de 2 ans à 4 millions. Et Barry, qui a été un mal-aimé dans plusieurs villes, s'en va maintenant à Edmonton. Et lui, c'est un contrat d'un
Edmonton,
an.
Martin, là, ils ont le don d'aller chercher des défenseurs qui vont à l'envers. Tu sais, quand tu as une attaque aussi prolifique, explosive, ce que tu as besoin, c'est des gars qui sont capables de défendre, des gros joueurs qui sont capables de défendre encore plus, parce que souvent, ils vont être laissés à eux-mêmes pour prendre des responsabilités, parce que les gars sont tellement impliqués en attaque, des fois ils se font prendre dans le fond du territoire, tout ça. Ça te prend des joueurs qui ont de la mobilité, mais aussi physiquement qui sont capables de prendre cette charge-là. Puis moi, je pense pas qu'ils ont fait un bon choix. Là.
Alors, les défenseurs ont encore énormément de valeur. On a parlé du Lightning. Ils ont réussi à garder Pat Maroon et Luke Shen sur des contrats quand même pas trop lucratifs, là, mais des contrats à court terme. 2 ans Maroon, 1 an pour Shen.
C'est des fins de parcours.
C'est vrai. La Floride, je ne sais pas si la Floride a fait un Jonathan Marchessault encore au Lightning de Tampa Bay, mais ils sont venus leur voler Carter Verhaeghe pour 2 ans. Est-ce que Verhaeghe comptera autant de buts que Marchessault a fait? Je ne le sais pas, probablement pas. Mais Verhaeghe est un bon joueur. Ça fait partie des joueurs que le Lightning a dû laisser aller. On va s'arrêter pour quelques messages, Danny. Au retour, on va attaquer le dossier des gardiens de but parce que ça a été la grosse histoire du marché, les gardiens de but hier. Ça s'est continué aujourd'hui avec Domingue à Calgary et aussi, mais surtout, Tomáš Greiss qui est rendu avec les Red Wings de Détroit. On va explorer ça avec toi. Et également, un petit peu plus tard dans l'émission, qu'est-ce qui arrive généralement après une prolongation? Il arrive une fusillade. Alors, Danny, tu vas attacher tes vieilles jambières, là, puis on va préparer une fusillade pour la dernière demi-heure de l'émission.
Parfait.
On s'arrête. Restez là, mesdames, messieurs.
Vous écoutez Prolongation avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Une journée un peu plus tranquille aujourd'hui en cette deuxième journée de l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale. On regarde ça rapidement en prolongation. Les signatures Burakovsky, 2 ans de plus avec le Colorado, un contrat passerelle. Les Québécois Lagacé, le gardien, et l'attaquant Gaudreau s'en vont à Pittsburgh. Greiss s'en va garder les buts avec les Red Wings de Détroit. Craig Smith s'en va à Boston. L'attaquant, lui, c'est 3 ans de contrat avec les Bruins. Il y a un petit morceau qui vient de partir sur la marge de manœuvre des Bruins de Boston. C'est 3,1 millions de dollars. Il y a également Tyson Barrie, 1 an avec Edmonton. Nate Thompson s'en va à Winnipeg pour 1 an, 750 000. L'increvable Mike Smith continuera de garder les buts avec les Oilers d'Edmonton. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. Et Mark Pizik a signé avec Dallas. Et Kevin LeBanc a signé un contrat, une prolongation de 4 ans avec les Sharks. Louis Domingue s'en va à Calgary, 1 an, 700 000 $. Fast a signé une prolongation de 3 ans avec la Caroline. Et Cody Aiken s'en va du côté des Sabres de Buffalo. Les gardiens, Danny, hier, ça a été vraiment, on appelait ça la valse des gardiens un peu partout dans les médias, et c'est littéralement ce que ça a été. Et ça a débloqué un petit peu, ça a parti, en fait, tout a débloqué avec surtout là le dossier des Canucks de Vancouver. Quand on a essayé là, à minuit moins une de conclure une entente avec Jacob Markstrom et qu'on n'est pas parvenu à le faire, Markstrom, lui, s'est empressé de faire monter les enchères entre les deux clubs de l'Alberta, les Oilers et les Flames. Les deux avaient besoin d'un gardien numéro un parce que les Flames avaient décidé de laisser partir Cam Talbot, qui lui a signé pour 3 ans avec le Wild du Minnesota. Alors, Markstrom a choisi les Flames de Calgary parce qu'à la fin de tout ça, il y avait une différence $1 million entre le contrat offert par les Oilers et le contrat de 36 millions pour 6 ans offert par les Flames de Calgary. Et aussi, Danny, la différence se serait faite par une clause de non-mouvement. Carey Price, à titre d'exemple, avec le Canadien, a une clause de non-mouvement. Alors, les Flames, pour avoir l'avantage sur les Oilers, pour signer Markstrom, ils ont donné 1 million de plus et une clause de non-mouvement. Aujourd'hui, Markstrom est le numéro 1 des Flames. Et on est obligé de se retourner vers Smith pour les Oilers. Est-ce qu'il aurait dû la donner, la clause de non-mouvement, puis le million de plus, Danny, les Oilers?
Ben écoute, tu sais, probablement quand il arrive un temps où tu dis, OK, la ligne est là, là à un moment donné, ça va arrêter, là, parce que
oui.
C'est jusqu'où on va aller. Là. Moi, je pense qu'on a bien joué les cartes du côté de Markstrom. Écoute, personnellement, moi, je trouve que c'est chèrement payé là, ce qu'on lui a donné sur la longue, parce que c'est un gars qui n'a pas une historique de régularité, de constance.
Il a 31 ans. Il est quand même, Danny est quand même plus constant depuis 2 ans là.
Ouais, depuis qu'il a eu des problèmes de santé importants là. Donc
oui.
Depuis qu'il a réglé ses problèmes de santé, c'est vrai que ça a été un joueur quand même très important là, dans son parcours, puis on peut pas dire que les Canucks de Vancouver peuvent faire fi de sa contribution. C'est grâce à lui si
absolument.
On a vraiment réussi à stabiliser. Tu sais, avec le départ de Luongo, il y a eu la chaise musicale. C'est jamais facile quand tu perds un joueur de l'envergure de Luongo. C'était une présence tellement forte. Après, là, c'est difficile d'aller chercher ce genre de...
C'est des jambières assez grandes à chausser, ça.
Exactement. Mais au fil du temps, ben bon, avec Markstrom, je pense qu'on a réussi ça. Moi, personnellement, écoute, comme je te dis, là, je trouve que c'est beaucoup. Dans les circonstances, il y avait une urgence là-bas. Et eux, ils ont vraiment l'impression qu'ils ont une bonne équipe, qu'ils s'approchent de quelque chose, puis ils avaient besoin de stabiliser ça. Puis l'effet stabilisateur, Martin, c'est ton gardien, c'est tellement important. Donc,
absolument.
Pour toutes ces raisons-là, je te dis oui, je pense que c'est valable. Et je pense que à cause de ça, Edmonton aurait dû quand même tenir le coup, voir jusqu'où ça pouvait les mener. Parce que, écoute,
moi,
ils sont dans le vide, là.
Et Danny, je l'aurais matché. Un bon Québécois, je l'aurais matché, l'offre.
Oui, t'as raison, Martin. Puis, écoute, là, Et Vancouver va chercher Holtby. Vancouver n'est pas perdant, là.
Non, puis là, en plus, là, Vancouver va chercher Holtby, puis ils ont Thatcher Demko. On sait que Holtby, de temps en temps, quand il passe quelque chose là, entre ses deux yeux, entre ses deux oreilles, là, des fois, il passe par des moments un petit peu plus sombres, un petit peu plus difficiles. C'est un très bon gardien. Il a gagné une coupe. Moi, je l'aime bien, Holtby. J'aime le bonhomme. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à donner. Mais avec Demko, Thatcher Demko, là... Les Canucks ont un sacré bon duo quand tu compares à ce que les Oilers ont, là.
Absolument. Puis il y a trop... Écoute, les Oilers, là...
Ils jouent dans la même division, en plus.
C'est cauchemardesque. Puis en plus de ça, leur défensive est pas... Tu sais, ils vont chercher Tyson Barry. C'est pas un...
Ils n'ont pas tes problèmes en défensive avec ça, là.
Non. Les autres peuvent dire peut-être, OK, sur l'avantage numérique, ça va nous aider, là, mais... Et c'est correct. Jusque-là, ça tient la route. Mais moi, je te disais tout à l'heure, je regarde la tendance... La tendance dans la Ligue nationale, c'est d'avoir de gros défenseurs, surtout quand au moment où tu as une équipe plus offensive qui aime contrôler la rondelle, faut que tu laisses tes joueurs d'avant aller, puis pour ça, ça te prend des gars qui sont capables de prendre une charge de travail supplémentaire.
Dans les gardiens, hier, Anton Khudobin, qui a connu des moments exaltants avec les Stars, il est allé voir un petit peu ailleurs, une couple d'heures, puis il est revenu à Dallas. C'est une bonne décision pour lui, honnêtement, là, quand il y a de la magie à quelque part. Va pas faire exprès pour briser la magie.
Ben, écoute, t'es dans un contexte où t'es apprécié de tes coéquipiers. Les attentes, elles sont établies. Oui, tout à fait. T'as un ascendant dans le vestiaire. T'es bien, tu te sens chez vous. Il a 34 ans. Là. Il est pas en train de refaire sa carrière.
Non.
Je pense que si ça avait été un gars qui est à 27-28 ans, qui frappe, il arrive à l'autonomie, puis t'sais, il frappe à la porte pour aller chercher... pas faire sauter la banque, mais aller chercher l'argent qu'il pense qu'il peut avoir. Bon, là, c'est un autre dossier complètement. Mais à 34-35 ans, dans son cas, 34 ans, c'est ton dernier contrat. Tu vas finir ta carrière probablement avec la même équipe. Moi, je trouve que c'est très éclairé comme décision. Ça a beaucoup de sens.
Moi, je trouve qu'il y a eu trois rapports qualité-prix intéressants dans les dernières heures. D'abord, moi, j'aime beaucoup Corey Crawford. Je trouve que même s'il est plus en fin de carrière, je trouve que son style, puis c'est un incroyable bagarreur. Je comprends pas comment ça se fait que les Oilers se sont pas tournés vers un gars comme ça, qui a une culture d'avoir gagné des Coupes Stanley, puis qui aurait pu avoir vraiment un impact dans le vestiaire des Oilers d'Edmonton avec une équipe. Peut-être qu'il a pas voulu y aller. Il y a pas beaucoup de monde qui veut aller à Edmonton. Ça, d'ailleurs, ça va être un dossier éventuellement. Absolument. Jersey, c'est correct. Il voyagera pas beaucoup.
Tu n'es pas obligé d'aller habiter à Secaucus.
Non. Tu peux aller où c'est plus beau. Là. Mais tu sais, Danny, quand même, il a pris une bonne décision d'affaires et de hockey parce qu'il va accompagner, et les Devils ont fait un très bon coup. C'est pour ça que je disais ça. Les Devils ont fait un bon coup parce que là, avec Crawford, ils vont aider leur jeune gardien de but qui est très prometteur, très talentueux. Puis Roland Melançon, là, l'enseignement, là, ça va se faire à deux. Tu sais, Crawford va également inspirer son jeune coéquipier. Melançon va continuer de travailler avec des gars qui travaillent fort. Crawford, c'est un bon travaillant. Je trouve que c'est un bon coup. Et l'autre bon coup, là, c'est Cam Talbot, parce que Talbot s'en va au Minnesota. Puis ça va être une situation à deux gardiens de but, comme celle de Calgary, parce que Stella, qu'on parle pas beaucoup de lui, là, mais c'est un bon gardien de but. Alors, il va avoir une bonne situation pour Talbot, puis une bonne situation pour le Wild, également du côté des Devils du New Jersey.
Ben, écoute, il fallait qu'il se passe quelque chose au Minnesota, là, parce que Dominique, à un moment donné, là, ça devient comme, écoute, c'est supplice de la goutte, là. Ça revient chaque année, là. C'est comme tu tapes sur le clou, c'est toujours la même chose qui revient. Et puis, donc, il y avait besoin d'un changement d'air. Puis je pense que ce changement d'air-là va être salutaire, parce que c'est pas un mauvais gardien, là, Talbot. Mm-hmm. Puis tu as raison de mentionner que, à un moment donné, tout est dans l'équilibre, hein. C'est qu'est-ce que tu vas être capable d'obtenir de ton gardien de réserve. Parce que là, ça aussi, on parlait des gros défenseurs tantôt, là.
Ouais.
Et là, je te dis que c'est la même chose au niveau des gardiens de but, là. Il y a des équipes qui pensent à fonctionner avec un seul gardien, ça n'existe et ça n'existe plus, c'est terminé, et ça n'existera plus. Parce que le style de jeu, tout ce qui se passe, on en a parlé abondamment, on pourrait y revenir si les gens veulent en rediscuter ou veulent nous entendre là-dessus, on pourra en parler un peu plus, mais c'est clair que, écoute, j'ai tenu la statistique à jour jusqu'à maintenant, je peux la répéter si les gens veulent le savoir, depuis 2014, il n'y a aucun gardien de but qui a soulevé la coupe qui avait joué 60 matchs dans l'année. Aucun. Pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est parce que le gars s'est blessé. Mais il n'y a personne qui a joué 60 matchs. Celui qui avait joué le plus l'année de sa coupe, c'est Crawford avec 57. Il n'y en a pas qui ont joué 60 matchs. Et de plus en plus, à cause de ce que ça représente, la charge de travail, puis du changement de momentum à un moment donné, que ce soit dans une série ou sur des séquences, écoute, là, je regarde ce qui se passe actuellement, Martin, les 3 en 4, il va-t-il en avoir?
Ah, écoute, si on commence le 1er janvier puis qu'on va avoir une saison d'au moins 60 matchs, là, ça va être ça, 3 matchs en 4 soirs assez souvent. Danny, moi, je pense que Marc Bergevin a très bien travaillé en allant chercher Jake Allen. Tu sais, il a pris un contrat un petit peu plus lourd, là, mais il a très bien travaillé parce que Allen devient un choix très intéressant quand on voit ce qui se passe depuis 24 heures dans la signature des gardiens de but. Là, tu sais, 4 millions, oui, mais Allen peut lui donner quelque chose. Je regarde les Blackhawks de Chicago. Je regarde les Golden Knights de Las Vegas qui ont fait venir Pietrangelo aujourd'hui pour lui faire visiter la ville et tout ça. Puis l'opération La Grande Séduction, comme le film, là, comme dans le film. Puis je suis en train de penser à Marc-André Fleury. Puis je suis en train de penser aux Blackhawks de Chicago. Là, les Blackhawks
Si les gens ont écouté le film, là, tu sais, le médecin trouvait des pièces, des dollars partout. Là. Je sais pas
à Vegas, tu peux faire ça. Tu peux trouver de l'argent partout.
Ou des jetons.
Écoute, je ne sais pas si ça va marcher, mais si ça marche, on va probablement bouger Marc-André Fleury. Ouais. Et Marc-André Fleury ne veut pas parler aux médias pour l'instant, parce que je pense qu'il est en attente de ce qui peut arriver. Ben, écoute, je sais pas. Ils viennent d'aller chercher Mike Smith. Ça veut-tu dire qu'ils se sont essayés avec les Blackhawks puis ça a pas fonctionné? Peut-être que c'est ça. Mais en même temps, Danny, je suis obligé de penser aux Blackhawks de Chicago. Parce que là, comme le Canadien, les Blackhawks ont goûté aux séries. Tu sais, là, ils se sont fait donner un billet puis ça a été le fun. Ils sont allés éliminer Edmonton. Ils ont goûté. Marc-André Fleury peut très bien aller jouer à Chicago, puis on peut très bien faire un peu d'aménagement pour le contrat de Marc-André Fleury. Puis moi, j'en démordrai pas, c'est un de mes préférés avec Carey Price. Marc-André Fleury peut faire gagner une équipe, peut faire progresser une équipe rapidement.
À qui on va demander d'avoir une évaluation sur le travail de Marc-André Fleury au cours des dernières années?
Je sais pas.
À Chicago? Ça va pas être Pierre Gauthier?
Je sais pas, mais écoute, probablement que Jimmy Wade va avoir son mot à dire, en tout cas,
ça parle français, puis ça a de l'influence.
Exactement. Puis, non, puis tu parles, tu sais, moi, j'ai pensé à Marc-André Fleury pour Blackhawks de Chicago, parce que je ne vois pas Fleury aller, tu sais, de toute façon, il y a une clause, là, puis je pense pas que si on essaie de l'envoyer à Détroit ou avec les Islanders de New York, moi, je vois pas ça là. Mais moi, je pense à Chicago. C'est une équipe, c'est pas une équipe qui est prête à gagner la Coupe Stanley demain matin. Mais avec Marc-André Fleury, les Blackhawks de Chicago vont retourner en série, Danny.
Oui, c'est sûr. Puis c'est une équipe qui a de l'argent pour déjà, ils sont dans une situation où ils sont capables de faire son acquisition. Déjà au départ, ça c'est bien. Et l'autre chose, bien évidemment, c'est que c'est un marché qui lui convient. Lui, c'est un joueur vedette.
Absolument. Absolument. Alors, ça va être un dossier à suivre. La seule transaction majeure qui est survenue...
Si j'étais Edmonton...
Oui?
Je peux te dire que...
Tu t'essayeras encore?
Oh, que je mettrais mes billes.
Oui. Écoute, il y en a quelques billes aussi qui pourraient aider les Blackhawks, les Golden Knights de Las Vegas. Mais les Golden Knights, ce qu'ils vont vouloir avoir, Danny, c'est des prospects puis des choix parce qu'ils n'ont plus de place pour payer personne. Ça, c'est clair. Ouais, c'est surtout s'ils visent Pietrangelo. Avant de faire la pause rapidement, il y a eu une seule grosse transaction là, avec un gros nom. C'est Paul Stastny, parlant de Vegas, là, qui est allé soulager 6,5 millions sur la masse salariale. Lui, il retourne à Winnipeg. Je suis content un peu pour Winnipeg. Québec parce que ils vont régler à court terme leurs problèmes au centre. Puis ils ont eu du succès avec Paul Stastny et que Paul Stastny accepte d'y retourner aussi, Danny. Je pense que ça a démontré beaucoup de classe de sa part.
Absolument. Puis moi, je continue de croire que dans un rôle pas trop offensif, là, je pense qu'avec Vegas, on lui a demandé un peu trop pour
ça. À Winnipeg, ça va être mieux.
Ses capacités offensives. À Winnipeg, ça va être une autre affaire. Là, il va vraiment être derrière des plus jeunes joueurs et on va lui demander un rôle de grand frère, un rôle de stabilisateur avec des responsabilités accrues dans les situations de jeu où on a besoin d'expérience et de stabilité. Et s'il se concentre là-dessus, parce que c'est pas toujours évident pour un joueur de son âge de vouloir accepter une diminution au niveau du rôle, mais s'il accepte ça, moi, je pense qu'il va faire de l'excellent travail.
On va s'arrêter pour quelques messages, Danny, et au retour, ton commentaire aujourd'hui portera sur une évaluation de la fin de carrière de Carey Price et de Shea Weber avec le Canadien contractuellement parlant et un parallèle avec ce qui est arrivé avec Henrik Lundqvist, qui est maintenant le roi de Washington après avoir été le roi de New York pendant plusieurs années. On s'arrête pour une pause.
De retour à Prolongation avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
On ira en tir de barrage dans quelques instants sur plusieurs sujets chauds avec Danny, mais d'abord ton commentaire éditorial, Danny, aujourd'hui.
Écoute, je veux parler d'Henrik Lundqvist parce que j'ai été vraiment surpris de le voir prendre un autre contrat ailleurs. Lui qui a vécu un rachat de contrat, c'est pas évident là avec les Rangers de New York. Je croyais vraiment qu'il allait terminer sa carrière avec les Rangers. Il a 38 ans, Martin, et il restait encore une année de contrat. Il lui restait encore deux années, pardon, valides à son contrat. Je fais un parallèle avec Carey Price parce que Carey Price actuellement a 33 ans, d'accord?
Oui, au bout du contrat, ça va se ressembler, là.
Au bout du contrat, Martin, je regarde dans 4 ans, là, en 24-25, il va rester encore une année au contrat de Price et deux années au contrat de Weber. Alors, je comprends le Canadien d'avoir un petit peu le sentiment d'urgence en disant ces gars-là, il faut que ça marche tout de suite. Parce que Lundqvist,
on est dans le très moyen terme maximum.
Actuellement, là, on est dans un virage. Là, ça se rajeunit du côté des Rangers. L'arrivée de Lafrenière, tout ça là, mis ensemble, Martin, c'est l'amorce d'un virage jeunesse, d'une fraîcheur, de nouveaux visages. Alors, et que ça commence dans le filet, mais c'est partout, là. Et on va vivre ce phénomène-là en 2024, je pense, approximativement, avec le Canadien. Je pense que c'est assez facile de faire un comparatif entre les deux sans trop se tromper. Si le Canadien n'est pas capable d'avoir une chance de gagner la Coupe Stanley dans les trois prochaines années, l'année numéro 4, donc à 2024, ça va être très difficile de convaincre Carey Price de demeurer avec le Canadien de Montréal pour toutes les bonnes raisons au monde. Et à l'inverse, ça va être difficile pour le Canadien de persister avec Carey Price parce qu'il va avoir Primo va être à maturité, ça va être peut-être le temps de faire un virage, peut-être. Absolument. Qu'on va dire c'est un peu ce que les Rangers sont en train de vivre et à ce moment-là, ben écoute, Shea Weber là, il sera pas très très jeune non plus là, il a 35 ans actuellement là. Alors tu t'imagines que à la fin du parcours, lui là, ça va être assez difficile de tenir le rythme et je pense que lui aussi va faire partie de cette équation de rachat de contrat et c'est les deux joueurs qui dans le vestiaire représentent l'espèce de colonne vertébrale de cette formation et qui font, je pense, dans les circonstances un excellent travail là, et pour ces raisons-là, j'ai trouvé le parallèle assez intéressant en me disant ce qu'on vit dans la grosse pomme, on devrait le vivre à Montréal indépendamment des résultats d'ici 3 ou 4 ans.
Puis tiens, en plus, Danny, moi j'ai toujours fait des comparaisons entre les deux marchés, les deux organisations, parce que autant à New York qu'à Montréal, on demande les mêmes affaires, c'est-à-dire gagner à tout prix. C'est deux endroits où tu peux pas te permettre de pourrir dans le fond des classements.
Non, c'est les marchés chauds, c'est comme ça, Martin. Et donc, on s'en souviendra, on s'est pris une petite note et je pense que ça va, un peu plus tard, on pourra regarder ça avec un certain recul et valider nos projections.
Et en quelques secondes à peine, Danny, là, je veux pas mettre de pression sur le jeune homme, mais quand on repêche un gars comme Goulet à la défense et qu'il a un profil qui ressemble un peu à celui de Shea Weber, je le comparerai pas à Shea Weber, mais quand on parle de la fin de carrière de Weber et de l'arrivée de Primo à la place de Price, peut-être que si le Canadien est très, très chanceux en bout de ligne, ils auront en Goulet un jeune défenseur qui pourra prendre une partie des responsabilités de Weber à ce moment-là.
En tout cas, les rapports actuellement parlent de lui avec beaucoup d'éloges et il y a des comparaisons effectivement qui sont faites avec Weber. Alors, on verra ce que ça va donner. Je te dis, Martin, tout à l'heure, je te parlais en terminant de Evans et LeBanc. Là, j'ai fait le calcul à la fin de l'an prochain, là, parce que lui vient de signer un nouveau contrat.
Aujourd'hui,
l'économie là, du Canadien en prenant un joueur américain. Des collèges américains, au lieu de prendre un joueur de la Ligue canadienne de hockey, c'est 5,250 millions.
On s'en va en tir de barrage maintenant. On est en fusillade. Alors, Danny, attache tes jambières et rabaisse ton masque, c'est parti. Taylor Hall, si tu es l'agent de Taylor Hall, est-ce que tu lui conseilles un contrat à court terme ou si tu veux le voir sur un contrat à long terme?
Pas plus de 2 ans, Martin, juste pour passer à travers la pandémie, régler la situation financière des équipes, stabiliser tout ça, faire augmenter dans ma valeur dans un marché qui est très chaud. Je pense que c'est la raison pour laquelle on considère Montréal.
Parmi les gardiens qui ont signé dans les dernières heures, qui a fait le meilleur coup? Quelle équipe a fait le meilleur coup avec le gardien qu'ils ont signé?
Je pense que le meilleur coup, c'est Braden Holtby. Lui, actuellement, il va jouer dans une équipe qui aspire aux grands honneurs et c'est un contrat à court terme pour lui et je pense que ce contrat-là, s'il a du succès avec les Canucks de Vancouver, il pourra le renégocier à la hausse. J'aime les contrats à court terme actuellement pour toutes les raisons que j'ai mentionnées préalablement dans le dossier Taylor Hall.
Le temps file. Un autre tireur. Si le Canadien obtenait les services de Taylor Hall, tu as répondu au début de l'émission. Quel joueur tu serais prêt à sacrifier pour inclure Hall dans la masse salariale du Canadien?
Évidemment, Tatar d'entrée de jeu. Et s'il y a de l'intérêt pour Jonathan Drouin, pour moi, c'est les deux joueurs que je considérerais laisser partir pour faire assez de place pour intégrer Taylor Hall.
Est-ce que Marc Bergevin a donné trop d'années, trop d'argent à Josh Anderson?
Il n'y avait pas vraiment le choix.
Est-ce que, parmi les entraîneurs encore en chômage, et je termine là-dessus, Gérard Gallant, Mike Babcock, lequel des deux, selon toi, Danny, va retravailler le plus rapidement dans la Ligue nationale?
Gérard Gallant.
Oh, intéressant.
Mais Gérard Gallant, meilleure réputation en général, meilleur comportement avec les joueurs, moins décapant. Je pense que ça, c'est ce qui milite en faveur de Gérard Gallant.
J'ai 10 secondes pour la dernière. Quelle est l'équipe la plus améliorée avec la signature qu'elle a fait jusqu'à maintenant?
Écoute, je pense sincèrement que dans les équipes qui ont été les plus actives, à l'intérieur des équipes qui ont été les plus actives, j'ai vraiment aimé jusqu'à date les décisions des Flames de Calgary.
Ah, moi aussi, puis je déteste pas celle des Canucks de Vancouver, c'est peut-être pas fini. Danny, merci infiniment de ta participation, bien sûr, à notre émission Prolongation. On va donner rendez-vous aux gens samedi prochain à 16h. Merci à Mario G. Langlois qui a travaillé à la réalisation de cette émission. Je vous rappelle que Taylor Hall et Pietrangelo n'ont toujours pas signé les deux grandes vedettes qui restent encore disponibles au marché des joueurs autonomes. Au revoir, mesdames, messieurs. Bonne fin de week-end. Restez chez vous, s'il vous plaît.